Il est 21h à Ouagadougou, 22h à Lomé et à Abuja. Bienvenue dans Salle Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Émission spéciale consacrée à la lutte contre le VIH-Sida en ce 1er décembre, journée mondiale contre le Sida. Gros plan sur l'initiative 5% qui permet au pays de mieux gérer les subventions allouées par le Fonds mondial. Où en est-on de la recherche pour un vaccin contre le VIH?
Quand je vois toutes les avancées qu'on a pu faire, on donnait du jus comprimé aux malades, maintenant on donne plus qu'un comprimé. Bientôt, on aura sûrement des injections tous les 6 mois.
Nous entendrons Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU SIDA. Enfin, un reportage au Togo où les personnes vivant avec le virus font toujours l'objet de stigmatisation. Mais auparavant, voici le bulletin d'information présenté par Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. En Namibie, le candidat du parti au pouvoir, Hage Geingob, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Hage Geingob a obtenu près de 87% des voix selon les résultats annoncés aujourd'hui par la commission électorale. Il va succéder à Hifikepunye Pohamba, qui termine 2 mandats de 5 ans. Au Nigeria, Maiduguri et Damaturu, 2 capitales du nord-est du pays, ont été la cible d'attaques attribuées à Boko Haram. Le double attentat suicide dans le Monday Market à Maiduguri a été perpétré par 2 femmes kamikazes et selon l'AFP, il y a eu 10 morts. Ce même marché a déjà été la cible d'un double attentat qui avait fait au moins 45 morts la semaine dernière. Thomas Lubanga, ancien chef rebelle congolais, a été reconnu coupable par la Chambre d'appel à la Cour pénale internationale. La justice internationale lui reproche d'avoir enrôlé des enfants soldats en République démocratique du Congo. C'était en 2002-2003. Sa peine de 14 ans de prison a donc été confirmée. Lutte contre l'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a indiqué ce lundi que le Libéria et la Guinée ont réussi à isoler 70% des personnes infectées par le virus Ebola et à enterrer en toute sécurité 70% des victimes avant le 1er décembre. Jacques Aristide.
Des progrès certes, mais la guerre contre Ebola est très loin d'être gagnée d'après les différents acteurs engagés dans la lutte contre l'épidémie. Pour l'ONG Médecins sans frontières, le virus fait encore rage en Sierra Leone, qui, d'après les humanitaires, a longtemps refusé de voir la réalité de la maladie. À Genève, ce lundi, le docteur Bruce Aylward de l'OMS faisait le point sur le plan ambitieux mis en avant il y a 2 mois par l'agence onusienne pour freiner l'épidémie. Elle avait fixé comme objectif au 1er décembre de prendre en charge et d'isoler 70% des malades et de sécuriser 80% des enterrements, les dépouilles étant très contagieuses. Selon le docteur Aylward, ce programme a démontré qu'il était possible de combler l'écart énorme entre l'ampleur de la maladie et la capacité de réponse. Le médecin a indiqué que ces mêmes objectifs ont probablement été atteints dans l'ouest de la Sierra Leone et qu'il s'attendait à ce que la situation s'améliore à travers le pays au cours des prochaines semaines. Le docteur Aylward a toutefois prévenu que parvenir à atteindre ces objectifs n'entraîne pas automatiquement la disparition des nouvelles infections et des pratiques funéraires dangereuses. Malgré les lueurs d'espoir, Ebola a tué près de 7000 personnes à ce jour, selon le dernier bilan de l'OMS, en immense majorité au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au moins 16 gardes frontières irakiens sont morts aujourd'hui dans une attaque de l'État islamique dans l'extrême ouest de la province d'Anbar, non loin de la Syrie. L'attaque a également fait 4 blessés. Malgré tout, les autorités irakiennes affirment contrôler Al-Walid, théâtre de l'assaut des militants. Le chef du gouvernement local de Hong Kong a affirmé ce lundi que la poursuite des manifestations du mouvement pro-démocratie était devenue intolérable. La police du territoire passée sous tutelle chinoise a repoussé les militants pro-démocratie qui tentaient dans la nuit d'encercler le siège du pouvoir, provoquant des heurts parmi les plus sérieux depuis le 28 septembre. Et le monde entier a célébré aujourd'hui la journée mondiale du sida. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué les progrès accomplis, mais il a mis en garde contre la fragilité des acquis dans la lutte contre le sida. 35 millions de personnes vivent avec le VIH, dont 19 millions sont dans l'ignorance de leur statut sérologique. Pour en savoir davantage sur la lutte contre le sida, restez avec nous sur Voyons Afrique. Et Claire Morin-Gibou fait des développements plus longs sur le sujet.
Merci beaucoup, Jean-Roger. retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Aujourd'hui, 1er décembre, le monde entier a célébré la journée mondiale contre le sida. L'occasion pour Sahel Plus de se pencher sur l'initiative 5% mise en place en France en 2010. Deuxième contributeur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et premier contributeur d'United, la France a initié cette contribution indirecte au Fonds mondial qui représente 18 millions d'euros par an. Une contribution qui sert à appuyer les pays francophones dans leur demande de subvention au Fonds mondial, mais aussi dans leur application et leur évaluation. Stéphanie Ciambiano est coordinatrice de l'initiative 5% auprès de France Expertise Internationale.
De manière générale, l'Afrique de l'Ouest reste vraiment une zone dans laquelle les objectifs sont extrêmement ambitieux. On est à l'heure actuelle à peu près à 30% de couverture de la prise en charge en matière de VIH-SIDA. C'est encore relativement faible et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire sur les trois pathologies, que ce soit la tuberculose qui reste malgré tout importante dans ces trois pays, que ce soit le SIDA qui est évidemment le fléau le plus important, ou bien sûr en matière de VIH-SIDA. J'ajoute que l'initiative travaille aussi comme le Fonds mondial, sur tout ce qui concerne le renforcement du système de santé. Puisque pour pouvoir lutter efficacement contre les trois maladies, il est aussi important de pouvoir s'appuyer sur des systèmes de santé, sur du personnel de santé bien formé dans les pays. Et que c'est vrai que dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, les systèmes de santé sont relativement fragiles, avec des ressources humaines qui sont souvent assez mal réparties sur l'ensemble du territoire, qui ne travaillent pas toujours dans des conditions de travail complètement optimales, avec des plateaux techniques parfois très pauvres, etc. Donc l'idée, c'est non seulement de travailler sur les trois pathologies, le VIH-SIDA, le paludisme et la tuberculose, mais aussi d'essayer de renforcer le système de santé des pays cibles du Fonds mondial.
Alors, vous travaillez beaucoup sur les stratégies nationales. Est-ce que vous avez quelques exemples de programmes que vous suivez ?
Alors, un exemple d'appui à la définition des stratégies nationales, ça va être l'exemple du Niger. L'unité SIDA du ministère de la Santé du Niger nous a récemment demandé de bien vouloir les appuyer sur la stratégie de la prise en charge des patients séropositifs sur l'ensemble du pays. Donc vous savez que le Niger est un pays absolument immense. À l'heure actuelle, les traitements sont disponibles au niveau des chefs-lieux de région et dans quelques districts, mais on est très loin de couvrir l'ensemble du territoire et il y a encore des zones dans lesquelles le traitement antirétroviral n'est pas disponible. Donc de manière très concrète, le ministère de la Santé nous a demandé d'envoyer des experts sur cette thématique, donc à la fois des experts internationaux et des experts nationaux, donc des experts du Niger, pour réfléchir conjointement avec eux à une meilleure stratégie de décentralisation des soins, à l'organisation d'ateliers nationaux sur ces aspects et à l'évaluation des besoins finalement pour avoir une prise en charge maximale sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc de manière très concrète, plusieurs experts se sont rendus au Niger dernièrement pour appuyer l'ULSS, donc l'unité SIDA du ministère de la Santé, sur ces questions.
Stéphanie Ciambiano, coordinatrice de l'initiative 5% auprès de France Expertise Internationale. Cette année, la Journée mondiale contre le sida a pour thème « Objectif zéro ». Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. Selon l'ONU-SIDA, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA, 1,5 million de personnes à travers le monde sont encore mortes des maladies liées au sida en 2013. Toujours en 2013, on estimait qu'environ 35 millions de personnes vivaient avec le VIH à travers le monde. Nous avons joint Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU-SIDA, pour lui demander quel était l'état de la recherche pour un vaccin contre le VIH. Michel Sidibé.
Bon, moi, je crois qu'il y a beaucoup de chances qu'on ait une cure fonctionnelle. Et dans 10 ans, 10-15 ans, moi, je crois qu'on aura le vaccin contre le sida. Moi, je suis assez optimiste, je l'ai toujours été. Et c'est pour toutes ces raisons-là que j'appelle vraiment à ce qu'on se mobilise pour qu'il y ait pratiquement la fin du sida en 2030, c'est-à-dire qu'on puisse contrôler cette maladie comme un problème de santé publique majeur. Et quand je vois toutes les avancées qu'on a pu faire, on donnait du jus comprimé aux malades, maintenant on ne donne plus qu'un comprimé, bientôt on aura sûrement des injections tous les 6 mois qui vont permettre aux malades justement d'avoir une plus grande adhérence au traitement. Et je vois un peu partout aussi une société civile, et plus particulièrement des jeunes qui se mobilisent. Et ces jeunes ne veulent pas être simplement des bénéficiaires passifs de notre action, ils veulent être des acteurs au changement. Donc moi, je crois que le vaccin, la cure fonctionnelle, un meilleur traitement, tout cela va s'accélérer dans les années à venir.
Que pensez-vous de certaines réactions qui disent qu'il y a un ralentissement dans la recherche pour une solution au sida et que ça freine un peu et que ça n'encourage pas tellement les personnes qui vivent avec le virus?
Vous savez, moi je ne suis pas convaincu parce que il n'y a jamais eu autant d'activisme en matière de science que dans la lutte contre le sida. Les chercheurs se sont mobilisés, on a eu vraiment des avancées extraordinaires, on a des molécules très avancées aujourd'hui, et moi je pense que, au contraire, ce qui m'inquiète, c'est plutôt le fait que l'Afrique continue malheureusement à être très dépendante. L'Afrique ne produit pas son médicament, l'Afrique ne met pas en place des centres de recherche d'excellence, l'Afrique ne mobilise pas ses intellectuels les plus brillants, c'est-à-dire ses chercheurs, pour faire en sorte qu'on puisse être moins dépendant des pays développés. Et ça, je crois que c'est le combat que nous devons mener et ne pas continuer à toujours penser que les solutions vont venir d'ailleurs. Nous devons créer nos idées.
La RDC est un pays particulièrement secoué par le VIH-Sida. Et avant-hier, dans une émission, un des patients de Kananga se lamentait du fait que les ARV ne peuvent être obtenus que sur la base d'un prix qui est fixé. Est-ce que c'est conforme au principe, à la démarche de l'ONU-SIDA?
Vous savez, moi je suis vraiment un adepte des biens publics. Je pense que lorsqu'on a une épidémie comme celle du SIDA, il faut tout faire pour créer un contexte où l'accessibilité devient la réalité pour les plus pauvres. Et cela, il faut se battre. Quand c'est possible, il faut faire en sorte qu'on ait vraiment la gratuité au niveau de la lutte contre le sida pour les plus pauvres. Si on ne le fait pas, on laissera des gens pour compte. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On a pratiquement 14 millions de personnes qui ont accès au traitement, mais on a quand même 18 millions, 19 millions de personnes qui attendent ce traitement-là. Et il faut se battre pour que ces personnes-là ne soient pas exclues.
Si vous aviez la possibilité de vous mettre devant toutes les personnes qui vivent avec le virus dans le monde aujourd'hui, que leur diriez-vous?
Moi, je leur dirais que le combat ne sera gagné que par eux et que leur effort de mobilisation doit continuer et que porter un virus n'est pas le problème et que eux sont plutôt les éléments de la solution. Et je pense que les personnes vivant avec le VIH sont plutôt, pour moi, les éléments de la solution et non pas le problème. Le problème, c'est plutôt une plus grande justice sociale, c'est plutôt une plus grande redistribution des opportunités. Mais eux doivent continuer à être une voix, doivent continuer à se battre pour que le monde comprenne qu'ils sont là et qu'ils ont un droit à la vie et que la santé, c'est un droit.
Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU SIDA, au micro de Khalil Gueye. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 99 FM, notre fréquence à Abidjan. Direction le Togo à présent pour terminer l'émission. Malgré l'existence d'une loi contre la discrimination en matière de VIH-Sida, les personnes vivant avec le virus font toujours l'objet de stigmatisation et de discrimination. La communauté des homosexuels est l'une des cibles clés de la lutte contre la pandémie dans ce pays. Une communauté appelée HSH, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kaïl Osson.
Il y a des problèmes qui sont liés à des questions de droit, mais surtout à l'accès à la santé, en considérant la problématique du VIH-Sida.
Cet homme d'une trentaine d'années est un homosexuel. Pour avoir requis l'anonymat, nous allons l'appeler Koku. Le taux de prévalence du VIH dans la communauté des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes au Togo est de 19% contre 2,5% sur le plan national. Une cible qui mérite une attention particulière, estime-t-on à l'association MINCE. Koku en est le chargé changer de programme.
Il est urgent que quelque chose se fasse, surtout qu'il y a des gens dans cette communauté-là qui sont bisexuels, qui peuvent porter la maladie, et que chacun soit conscient de l'importance de prendre en compte ces cibles et de pouvoir nous laisser conduire nos activités. Parce que souvent, on fait des petits regroupements de masse, mais quand les gens savent que c'est les membres de la communauté homosexuelle qui sont en train de faire quelque chose là-bas, il y a souvent des menaces pour la sécurité. On a eu des cas où des jeunes débarquent pour pouvoir taper des gens. Donc, c'est un peu difficile maintenant de regrouper des gens.
La lutte contre le VIH-SIDA au sein des HSH n'est pas négligée, affirme le Conseil national de lutte contre le SIDA au Togo. Professeur Vincent Pitché, il est le secrétaire permanent du CNLS.
Il y a beaucoup de choses qui sont faites actuellement avec les HSH. On a un projet pacte VIH avec l'USAID sur 5 ans. Dans le cadre du Fonds mondial, depuis 2008, il y a des activités qui sont faites avec eux. Il y a un centre spécialisé pour eux où on les sensibilise. On fait tout le paquet, hein. Communication, promotion de préservatifs, traitement des IST, prise en charge psychosociale, accompagnement. Mais c'est un groupe assez fermé contre les problèmes de stigmatisation.
La problématique de la discrimination et de la stigmatisation constitue l'un des freins majeurs à l'objectif zéro au Togo. Selon une étude réalisée en cette année 2014, 2 PVIH sur 5 sont discriminés dans leur milieu social. Augustin Dokla est le président du réseau des associations des PVVIH Race Plus.
Nous sommes arrivés à constater que la stigmatisation et la discrimination associée au VIH-SIDA pèsent lourdement dans la réponse contre l'infection VIH-SIDA. Les gens sont stigmatisés dans les familles, dans les églises, en milieu du travail, mais également il y a l'auto-stigmatisation qui amène des idées suicidaires, le refus de se marier ou même d'avoir des relations sexuelles.
Pour la 27e journée anti-SIDA, le Togo a choisi de la commémorer sous le thème « Zéro discrimination, excluant le VIH et non les PVVIH ». Pour Kokou, le chargé de programme de l'association MINS, il faut aussi insister sur la tolérance envers les homosexuels.
On remercie déjà l'État de considérer cette cible-là, mais ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est de susciter un message de tolérance, ne serait-ce pour que la cible ait accès libre aux questions de santé. Il faudrait qu'on puisse laisser les gens être comme ils sont. Nous sommes nés comme ça, donc. On ne dit pas de comprendre ou d'accepter. On peut être foncièrement contre, mais ne serait-ce que laisser le droit aux gens de vivre la vie.
Au Togo, la pratique homosexuelle est non seulement rejetée par la société, mais aussi interdite par les tests en vigueur dans le pays. Kailosson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Elle en a vu de toutes les douleurs. Tellement tendu son cœur, là où d'autres ont baissé les bras. Elle dit qu'après certains regards, les mots deviennent dérisoires. On fait les choses parce qu'elles s'imposent, sans se demander pourquoi.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la technique, Michael Dubinski. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec le morceau Sa raison d'être, morceau écrit et composé par Pascal Obispo pour le SIDA Action et qui rassemble une vingtaine d'artistes comme Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, mais aussi Fodel, Princesse Erika d'origine camerounaise ou encore les Aïrois Tribal Jam.
Elle en a baissé les paupières, oubliant même.
Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Sa raison d'être.
contre tes murs.
Avec pour écho.